Bonsoir à toutes et à tous, Yannick Petit au micro pour un nouveau numéro de Wagon Livre. Wagon Livre, 149e numéro ce soir, votre émission littéraire depuis novembre 2010 sur les ondes de Radion. Un nouveau numéro avec une bourguignonne née à Cessé-sur-Tille, ancienne institutrice, Marie-Thérèse Mutin, bonsoir.
Bonsoir.
Marie-Thérèse, merci beaucoup. C'est la deuxième fois que nous vous accueillons à bord de Wagon Livre. La première fois, c'était pour votre autobiographie intitulée Entre chien et loup, disponible aux éditions Mutine. C'était il y a deux ans.
L'autobiographie, c'était une promenade Mutine.
C'est une promenade Mutine.
C'était pas une autobiographie.
Ce soir, nous vous recevons pour votre dernier écrit. Il s'agit d'un roman qui a pour titre Tu seras comme l'oiseau dont je serai le nid. Un roman, on va bien sûr en parler plus longuement tout au long de notre entretien, un roman engagé, qui ressemble à Marie-Thérèse Mutin.
Oui, j'ai voulu mettre effectivement toutes les valeurs auxquelles je crois, et notamment les valeurs de transmission qui ont été une grande partie de ma vie.
Vous me permettrez de rappeler quelques éléments de votre parcours. Vous, je l'ai dit, vous avez été institutrice, vous êtes aujourd'hui à la retraite dans ce petit village de Cessé-sur-Tille, en Côte d'Or, à quelques kilomètres de Dijon. Vous avez été, parce que vous ne l'êtes plus, mais vous avez été une militante politique totalement désintéressée. Désintéressée parce que je crois savoir que cela vous plaît bien.
Oui, non, mais bien sûr, oui, c'est comme ça d'ailleurs que je suis un peu ressentie sur le niveau de la Côte d'Or.
Alors, ancienne socialiste qui... en fait, c'est investi dans différents mandats. Vous avez été maire de votre village, vous avez été conseillère régionale, vous avez, durant deux ans, été député européen. À cette occasion, d'ailleurs, vous avez bien connu Edith Cresson, par exemple.
Ah oui, elle était commissaire européen, mais je la connaissais d'avant. Hein. Je la connaissais avant, Edith, hein, parce qu'on a milité ensemble dans le Parti Socialiste.
Je sais, avec certitude, que vous n'avez pas voté pour Nicolas Sarkozy.
Oui,
que vrai. Vous êtes plutôt du côté de Jean-Luc Mélenchon, désormais.
Oui, encore que, en ce moment, je me pose bien des questions par rapport à la ligne qu'il est en train de défendre ou d'attaquer, puisqu'il attaque plus qu'il ne défend.
J'ai utilisé, pour vous présenter, le terme de militante, mais vous êtes aussi, aujourd'hui, une militante de la culture et de l'édition, puisque vous avez créé... votre maison d'édition, ça va faire bientôt 20 ans d'ailleurs, en 1995. Les éditions Mutine qui sont nées en 1995. Et puis, vous êtes l'auteur d'une biographie, on va parler un peu de l'écrivain, auteur d'une biographie de Jean Popren, qui a été à une époque le numéro 2 du PS, ministre apprécié des relations avec le Parlement en son temps. Vous êtes l'auteur d'une nouvelle policière aux éditions Nicta, Meurtre au Palais des Ducs, et on mentionnera deux romans aux éditions de l'Armançon, et La source est tarie où buvaient les troupeaux, et l'autre, J'ai plié les genoux sans jamais... sans jamais courber l'âme, voilà. Des titres qui sont des alexandrins, voilà. Ce qui n'est pas le cas du dernier qui compte 13 syllabes.
Eh oui.
Vous avez préféré, comme Verlaine, vous avez préféré l'impair.
Préféré l'impair, oui. Ça chantait mieux.
Marie-Thérèse Mutin, tu seras comme l'oiseau dont je serai le nid. Pourquoi ces titres toujours très longs?
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas faire court.
Voilà. C'est-à-dire, je ne sais pas faire court dans les titres. Parce qu'on me dit toujours que je fais trop court dans le roman lui-même ou dans ce que j'écris. Mais dans les titres, oui, j'aime bien... Ce qui fait beaucoup rire mon ami David de Martis des éditions du Murmure.
Posons, si vous le voulez bien, le cadre, le décor, le contexte de l'action du roman dont il va être question ce soir. L'action se passe dans les années 2010.
C'est en 2012.
2012, oui, précisément. 2012. Une dame âgée, Mathilde, qui vit seule à la campagne... Son fils est installé au Canada, elle est d'ailleurs grand-mère, elle est la grand-mère d'un petit garçon. Et voilà que, nuitamment, elle est agressée par deux adolescents. Mais tel est pris qu'il croyait prendre, Mathilde se défend, L'un des agresseurs prend la fuite, l'autre est blessé, il a des côtes cassées, enfin il fait une mauvaise chute. Mathilde le maîtrise, enfin elle n'a pas trop de mal parce qu'il est physiquement affaibli. Elle le séquestre, elle le soigne bien sûr, et ce garçon qui se prénomme Kevin, qui est mineur, il a 16 ans et demi, 17 ans, ce Kevin est un... un enfant qui a peu de chance dans la vie, en fait, Marie-Thérèse, parents permissifs ou qui s'en occupent pas, drogué, aucun repère éducatif, jusque dans l'alimentation même. Alors, est-ce que Mathilde vous ressemble? Quels sont les points communs entre cette femme qui va séquestrer ce jeune Kevin de 17 ans et qui va le rééduquer chez elle à la campagne? Est-ce que Mathilde vous ressemble, Marie-Thérèse Mutin?
Oui, oui, me ressemble, oui. Vous savez, quand on écrit un roman, dans tous les personnages, on se retrouve. Je peux même me retrouver dans Kevin à mon adolescence, même si... Donc, Mathilde me ressemble beaucoup, effectivement, oui. Je me suis créé un petit personnage comme ça parce que j'avais hébergé pendant 4 ans un de mes petits-neveux à qui le livre est dédicacé.
C'est Guillaume, le dédicataire.
Oui, oui, qui est resté 4 ans en études à la fac à Dijon. Et il est parti et je me suis retrouvée seule, quoi. Et donc, je me suis créée un petit Kevin dont je me suis occupée pendant tout l'hiver 2012. Alors, et pour une partie de l'été.
Contrairement à vous, votre personnage, Mathilde, bon, a un fils. Oui. Mais, point commun avec vous, c'est une femme cultivée, c'est une femme sensible à la musique, à la littérature, bien sûr, c'est une femme de gauche, bon là, elle vous ressemble,
oui, oui.
Une athée laïcarde, 68 tarde, encore un peu attardée.
68 tarde, oui, enfin, j'ai beaucoup à dire sur le mouvement de 68, on n'a pas le temps aujourd'hui.
Et j'imagine que tout comme vous, Mathilde a milité pour l'abolition de la peine de mort.
Voilà.
Alors, on peut se demander pour quelle raison Mathilde n'appelle pas la gendarmerie pour confier ce jeune cambrioleur à la loi, à l'ordre, à l'autorité. Pourquoi décide-t-elle et au nom de quoi se permet-elle de séquestrer un jeune homme? N'est-elle pas aussi sur la voie de l'illégalité en séquestrant ce jeune garçon?
Oui, bien sûr,
mineur,
elle le sait, elle le dit... Mais bon, elle a ressenti la possibilité, en le voyant comme ça, complètement démuni, isolé, n'étant recherché par personne, hein, comme elle lui montrera. Elle se dit, bon, ben, je vais m'en occuper, je vais le faire sortir de là. J'ai beaucoup, j'ai fréquenté quelques drogués, et je sais très bien... ce qu'il faudrait faire, effectivement, pour les en sortir, c'est-à-dire ça, quoi. Les isoler complètement de leur milieu, hein, déjà, avec une personne qui n'a pas de lien affectif avec eux, et qui peut donc se permettre d'être dur quand il faut être dur, hein, et de lui faire prendre conscience que, finalement, sa vie, elle lui appartient à lui, hein, et à personne d'autre.
Ce qui est angoissant, c'est que l'action se situe tout proche de notre époque, vous l'avez dit, l'action débute en 2012, et voilà un jeune mineur, une jeunesse, l'avenir du pays, qui se montre inculte, grossière, délinquante, droguée. Toute la jeunesse, bien sûr, ne ressemble pas à ce jeune Kevin, mais tout de même, on est, et on se rend bien compte que la jeunesse est un peu sur une mauvaise pente.
Il n'est pas inculte, Kevin, hein. Il a décroché en 15 secondes parce que la drogue l'a fait décrocher, mais il n'est pas inculte.
Il est réfractaire à l'ordre, à la culture, à l'académique.
Il est perverti par la drogue. Un drogué, c'est plus le même enfant. Hein. D'ailleurs, la mère l'a mis dehors parce qu'elle ne le supportait plus, alors qu'elle l'aimait beaucoup. Hein. Elle dit à un moment donné, la mère, elle dit, quand il se retrouve, elle dit il était câlin quand il était petit. Et donc, mais là, un drogué, les parents ne le reconnaissent pas, quoi.
Mais ce qui est surprenant, c'est que la mère est quand même infirmière, enfin travaille dans les professions de santé. Mmh. Comment, on peut toujours se demander, comment se fait-il que des jeunes gens échappent comme ça à la vigilance, à l'affection, à la protection de leurs parents?
D'abord parce qu'un enfant drogué, on ne s'en rend pas compte tout le temps, tout de suite. Les parents ne s'en rendent pas compte tout de suite. Si on leur dit, ils disent non, 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 mon fils, jamais. Il y a une espèce de déni, hein, parce que c'est trop violent. Et puis la perversion, elle va très vite. Hein. Il suffit de tomber, et là, comme c'est le cas de Kevin, de tomber sur un couple qui va le manipuler et puis qui va effectivement l'attirer dans la drogue. Et une fois qu'on y est, c'est difficile d'en sortir. Hein. D'ailleurs, je ne dis pas qu'il s'en sort à la fin. Hein. On a l'espérance qu'il en est sorti, hein. Mais c'est très, très difficile.
Première petite escale en chanson, Marie-Thérèse, vous en êtes d'accord?
Oui.
Alors, c'est vous qui avez choisi le titre que nous allons entendre. Vous avez retenu On the Road Again, c'est Bernard Lavilliers. On se retrouve donc dans quelques minutes devant le micro de Wagon Livre avec Marie-Thérèse Mutin pour son dernier roman, Tu seras comme l'oiseau, dont je serai le dit, disponible aux éditions Muti.
Nous étions jeunes et larges des peaux, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again. Et derrière nous s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on nous pende. On the road again, again. On the road again, again.
On the road again, again. On the road again, again.
La mer revient toujours au rivage. Dans les blés mûrs, il y a des fleurs sauvages. N'y pense plus, tu es de passage. On the road again, again. On the road again, again. Elle nous a pris les beaux et les drôles. On the road again, again. On the road again, again. Ami, sais-tu que les mots d'amour voyagent mal de nos jours. Tu partiras encore plus loin. On the road again, again. 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 On the road again.
Si vous venez de nous rejoindre ce soir sur le 90.5 ou sur le www.radion.fr en direct donc via internet, nous accueillons ce soir Marie-Thérèse Mutin, auteure de « Tu seras comme l'oiseau dont je serai le nid » aux éditions Mutine. Marie-Thérèse Mutin, qui après avoir été institutrice, a eu la responsabilité de plusieurs mandats politiques sous étiquette socialiste. Elle a créé en 1995 les éditions Mutine, auxquelles, en militante de la culture et de la liberté de l'art, elle se consacre aujourd'hui avec ferveur. Marie-Thérèse Mutin, est-ce que vous voulez nous lire un extrait de votre roman?
Oui, je vais reprendre l'extrait, mais quoi que vous ayez expliqué l'entrée en matière de Kevin, je vais quand même le lire, c'est le début du roman. « Ah, j'ai encore oublié de fermer la porte à clé. Des grattements, des chuchotis ont réveillé Mathilde. À son âge, on a le sommeil léger. Elle allume la lampe de chevet, écarte les couvertures et sort du lit. » Elle prête l'oreille. Oui, ce sont bien des voix qu'elle entend. Elle n'attend personne. Et d'ailleurs, tous ses proches savent où est pendue la clé pour entrer à n'importe quelle heure, quand la porte est fermée. Ce doit donc être quelque voleur. Elle ouvre silencieusement la porte de sa chambre. Elle attrape au-dessus du porte-manteau le nerf de bœuf qui est là depuis toujours. Elle contourne la table, les chaises et se place derrière lui de façon à être cachée si les apprentis crocheteurs arrivent à ouvrir. À les entendre, ils sont deux. « Comment ça, la clé est dans la serrure? Tu m'avais dit que la vieille n'était pas là. »« Bon, il n'y a pas sa bagnole. »« Peut-être bien, mais elle n'a pas pu partir en laissant la clé à l'intérieur. »« Peut-être qu'elle est passée par une autre porte. »« Allez, discute pas, on entre quand même. Si elle est là, on la saucissonne. » Mathilde, prête à bondir, lève le nerf de bœuf. Elle n'a pas l'intention de se laisser ficeler. Elle les attend de pied ferme, amusée de les entendre s'escrimer à faire tomber la clé alors que la porte n'est pas fermée. Cela dure, et celui qui semble être le cerveau, si tant est qu'ils en aient un, s'énerve. « Putain, ôte-toi de là !» Il bouscule le crocheteur maladroit. Sous la poussée, la porte s'ouvre. Le voleur, déséquilibré, tente de se redresser, mais le sol se dérobe sous son pied. Il y a une marche descendante qu'il n'a pas prévue. Il fait une entrée fracassante, chute sur une chaise, raflant dans un grand mouvement de bras le vase de Chine qui trône sur la table. Le cerveau, tout aussi surpris, avance, debout, un revolver pointé en avant. Le nerf de bœuf siffle et s'abat sur la main de l'homme. Il pousse un cri de douleur, lâche l'arme qui tombe sur le crâne du bandit à terre. Le coup part en même temps que le cerveau est puis épouvanté par le fracas du tir et le hurlement de douleur de son compagnon. Mathilde entend ses pas précipités et ses jurons, puis, peu de temps après, le démarrage pénible d'un scotteur. Ne reste que l'enfonceur de porte ouverte, continuant de gémir sur le sol.
Merci Marie-Thérèse Mutin pour donc cette lecture du tout début de votre roman, dont je rappelle le titre, hein, « Tu seras comme l'oiseau dont je serai le nid ». Expliquons un petit peu ce titre.
Alors le titre, c'est le dernier vers d'un livre de ma nièce Isabelle Mutin. Ce livre s'appelle « Désirium très mince ». Et le dernier vers est « Tu seras comme l'oiseau dont je serai le nid » qui a chez elle un petit côté érotique qu'il n'a pas chez moi. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà.
Alors, dans votre roman...
Mais je pense que quand même le titre est bien adapté,
oui,
hein, à l'histoire finalement.
Et ce Kevin, il a besoin de trouver un nid, voilà, accueillant, voilà, réconfortant, qui, voilà, lui permette de prendre ensuite son envol.
Hein. Voilà,
d'ailleurs, il est question, la narratrice parle de lui, ou le narrateur parle de Kevin, ce jeune drogué, blessé, ligoté, j'exagère, disons kidnappé, séquestré par Mathilde. Ce jeune Kevin est un noisillon.
Voilà, c'est ça.
Et la béquille que Mathilde lui donne est une béquille culturelle. Alors, voilà que s'engagent entre tous les deux, d'abord, des relations assez tendues, assez difficiles, ce qui est aussi quand même une sorte d'affrontement de générations.
Oui.
Dans un premier temps. Elle pourrait être sa grand-mère.
Oui, oui.
Il pourrait être son petit-fils. Pour lui, c'est la vieille. On pourrait même dire la vieux, hein, dans son esprit, pour être un petit peu... trivial, voire grossier. Est-ce que Mathilde est une geôlière? Est-ce qu'elle est un bourreau pour Kevin?
Oh ben, au début, certainement. Au début, oui, bien sûr.
Hein. Parce qu'elle lui confisque son téléphone portable.
Oui, 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 elle lui confisque et en même temps, elle lui fait prendre conscience que personne ne l'appellera. Hein. Que le copain qui est parti sur le scooter, il ne reviendra pas. Hein. Kevin pense qu'il va revenir le chercher, mais elle sait bien, Mathilde, qu'il a bien envie de ne pas être mêlé à ça et qu'il ne reviendra pas. Et donc, elle lui fait prendre conscience, elle lui redonne à un moment donné son numéro, son portable, en lui disant « appelle ton... Regarde, tu n'as pas de message, appelle ton ami Michael. S'il te répond, je te libère », elle lui dit. Hein, à un moment donné, « s'il te répond, je te libère ». Évidemment, Michael ne répond pas. C'est le complice, Michael. Il ne répond pas et Kevin est tout surpris. Au bout d'un moment, il s'aperçoit qu'effectivement, il est tout seul. Il est tout seul à la merci de cette vieille qui lui fait des misères.
Alors, Mathilde, cette vieille, elle met au point tout un programme de lecture, j'allais dire presque de rééducation.
Oui, 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 oui.
Et alors, j'ai relevé Les Misérables, Michel Strogoff, Germinal, Le Portrait de Dorian Gray, L'Étranger, et puis bien sûr, il y a tout un programme d'initiation à la musique classique,
à la poésie.
Alors, pas d'Harry Potter, pas de bande dessinée, des classiques de chez classiques.
Mathilde, elle n'est pas d'un âge à avoir Harry Potter dans sa bibliothèque, il faut bien reconnaître. Hein. Donc, non, il n'y aura pas ça. Il aura ce que... Mathilde était professeure de français. Hein. Et donc, il aura les classiques français.
Et justement, comment aujourd'hui faire en sorte de transmettre une culture honorable, je ne dis pas de l'érudition aux lycéens, mais comment transmettre aujourd'hui une culture honorable, une culture littéraire générale à la jeunesse actuelle, parce qu'on a le sentiment que les enseignants, alors je ne sais pas si vous en connaissez encore beaucoup, Marie-Thérèse, mais est-ce que les professeurs de lettres, les enseignants en général, parviennent à émerveiller leurs élèves avec Racine, avec des poètes, avec des romanciers.
Mathilde a une fonction extrêmement privilégiée dans ce domaine-là. Elle n'a qu'un élève, hein, soumis à ce qu'elle veut, ce qui n'est pas le cas des professeurs de français, vous le savez bien. Hein, surtout maintenant, j'avais une conversation avec un professeur de lycée il y a peu, elle me disait il faut déjà se bagarrer contre les portables, contre les SMS, avant de commencer un cours, quoi. Essayer de faire en sorte, sur les écouteurs, sur les oreilles, elle me dit c'est très très compliqué de faire un cours.
Mais alors, une question, Marie-Thérèse Mutin, vous avez été institutrice en milieu rural, mais ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, l'école devrait redevenir le lieu du sérieux et du travail, et non pas le lieu où sont permis les portables, les écouteurs sur les oreilles? Ne faut-il pas remettre un peu d'ordre dans les couloirs et dans les classes?
Ça, effectivement, mais les enseignants ne sont pas les seuls dans l'affaire. Hein. Il y a d'abord les parents, il y a la société qui fait que le monde a changé.
Alors,
vous parliez de mai 68 tout à l'heure. Moi, j'ai enseigné, malheureusement pour moi, avant mai 68, hein, puisque j'étais institutrice en 60, de 60 à 68, les enfants n'étaient pas du tout... ils obéissaient, ils vous disaient bonjour. C'était des enfants comme moi j'avais été quand j'étais en classe. Après mai 68, il y a eu toute cette permissivité qui fait qu'il ne fallait pas les brimer, que certains enseignants se laissaient tutoyer... moi jamais, hein, mais et donc il y a toute cette le balancier était parti trop loin et comme toujours le balancier il repart dans l'autre sens trop loin, à mon avis c'est ça qui m'ennuie dans mai 68.
Ne pensez-vous pas que la gauche socialiste a aussi une grande part de responsabilité dans la mesure où on n'a jamais autant sous la gauche socialiste, quand même dérivée vers l'approche psychologisante de l'élève au cœur du savoir? Est-ce qu'on n'a pas aussi...
Oui, forcément que la gauche a des responsabilités dans tout ça. Hein. On a quand même été au pouvoir pendant un certain temps. On y est revenu, si je puis dire. Je ne suis pas sûre que ce soit la gauche qui soit au pouvoir, mais bon. C'est vrai, il y a eu toute une... Il y a eu Freud... mal digéré, Hein, faut pas de complexer les enfants, faut leur laisser faire ce qu'ils veulent. Et effectivement, il y a eu toute une idéologie comme ça de permissivité qui a, oui, effectivement, été portée par la gauche, oui, oui. Mais la droite n'a pas fait beaucoup d'efforts pour revenir là-dessus, hein.
Marie-Thérèse Mutin, on se retrouve dans une poignée de minutes. Vous nous proposez d'écouter un titre de 1987. C'était d'ailleurs l'époque des vinyles 45 tours. Voici, sur votre radio locale, un titre qui fut à l'époque numéro 1 dans 9 pays européens. C'est Étienne et c'est Gespa. Et maintenant, c'est Marie-Thérèse Mutin, éditrice engagée et auteure du roman « Tu seras comme l'oiseau dont je serai le nid ». C'est aux éditions Mutine, roman dont il est question ce soir devant notre micro. Marie-Thérèse Mutin, comment en découdre avec la désaffection de la lecture. Question qui doit, à mon avis, mobiliser toute l'attention de l'éditrice que vous êtes, vous qui passez une grande partie de votre temps à lire des manuscrits ici, dans votre maison, siège des éditions Mutines.
Ah, ça, c'est la grande question. Hein. Et c'est assez curieux, hein, parce que il y a des jeunes, hein, qui aiment lire, qui lisent. Dans une même famille, vous avez, par exemple, un enfant qui lit, l'autre qui ne veut jamais lire, et c'est très complexe. Hein. Si je reviens à mon enfance, pour connaître une histoire, on n'avait que ça, la lecture. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la radio, enfin si, la radio, mais bon. Et donc on lisait, et on trouvait que c'était vraiment facile, quoi. La lecture, c'était quelque chose de... C'était pas un effort. Hein. Tandis que maintenant, on a l'impression que, avec toutes les images qui arrivent, la lecture, c'est quelque chose qui oblige à un effort. Hein. Un effort d'imagination aussi, hein, parce que les personnages, on les imagine. Hein. Et vous voyez, même avec les chants, là, quand on entend les chansons, avant, il y avait une chanson, vous vous faisiez vos images. Maintenant, vous avez une chanson, il y a le clip avec, c'est pas vos images, c'est les images qu'a voulu faire passer le chanteur ou le réalisateur du clip. Et donc l'imagination, elle n'est plus là, et il faudrait que les jeunes comprennent que l'imagination, elle va venir de la lecture, et non pas de toute cette profusion d'images qu'il peut y avoir.
Et c'est-à-dire que les plus faibles se contenteront de l'image ?
Ceux qui sont le moins favorisés, oui, ils vont forcément se contenter de l'image. C'est la chose la plus facile. D'ailleurs, dans les familles où on s'occupe pas trop des enfants, parce que c'est le cas malheureusement dans certaines familles, l'enfant, on le colle devant la télé à 7h30 du matin. Il n'y a que des dessins animés à cette heure-là. Hein, donc, et voilà, et on est tranquille. Alors évidemment, quoi. Après on dit, oh, c'est les 4 jours et demi qui les fatiguent. Vous parlez, oui, c'est pas les 4 jours et demi d'école qui les fatiguent, c'est la profusion d'images qu'ils ont dans le crâne, voilà, quoi.
Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'en collège et en lycée, il y a ce qu'on appelle des lectures d'images. On décrypte les images,
oui,
sur leur valeur narrative,
oui,
argumentative.
Oui.
Donc l'image aussi est au cœur de l'école. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas recentrer un peu l'école sur le prestige de l'écrit, ce qui fait quand même l'identité de la culture française ?
Oui, mais en même temps, on est bien obligé de prendre... Moi aussi, j'ai enseigné avec... J'enseignais avec les enfants en difficulté qui sont dans les SECPA maintenant, qui s'appelaient les CES. Eh bien, je me suis servi aussi de films pour leur faire comprendre. Parce que, en plus, quand ils regardent un film... Ils ne voient que les détails. Par exemple, je repasse Ciao Pantin, là, qui est une superbe histoire, d'ailleurs de drogués aussi. Ce qu'ils retiennent, c'est que Coluche, il a mis beaucoup de sel sur les œufs à la coque qu'il est en train de se faire cuire. Voilà ce qu'ils retiennent quand vous leur demandez qu'est-ce qui vous a plu dans le film. Oh, qu'est-ce qu'il a mis comme sel sur ses œufs ? C'est quand même ahurissant. Donc vous vous dites qu'ils regardent la télé, qu'ils ne comprennent rien en plus. Donc je comprends qu'on puisse leur faire un décryptage d'images. Mais bon, c'est vrai que les profs de français devraient plus s'inquiéter de la littérature, oui, c'est sûr. Mais enfin, je ne sais pas s'ils le font ou pas. Je suis trop loin maintenant de l'enseignement pour porter un jugement quelconque.
Vous plairait-il, Marie-Thérèse Mutin, de vous retrouver, ne serait-ce que pendant 2 mois, 3 mois, devant une classe de seconde, professeur de lettres, avec les romans, les poètes qui sont ceux que Mathilde vient servir à Kevin.
Je suis pas sûr qu'ils m'entendraient. Il faudrait que je me fasse entendre, ce qui serait pas simple à mon avis. Hein. Mais je pense qu'on peut les intéresser. Hein. Je pense qu'on peut les intéresser, oui. Mais il y a quand même, pour les professeurs, beaucoup de découragement et de lassitude à cause de l'attitude des jeunes.
Hein. Et peut-être aussi l'attitude des parents.
Ah ben, l'attitude des parents, oui, bien sûr. Ça, c'est sûr qu'ils ne viennent que quand... On ne peut plus rien faire, quoi. On ne peut plus avoir une punition. On ne peut plus dire à un enfant, tu ne devrais pas fumer, par exemple, comme ça m'est arrivé. Hein. Je t'ai vu fumer, qu'est-ce que ça peut vous faire? C'était dehors, ce n'est pas votre affaire. Hein. Voilà ce que vous répondent des jeunes de 12-13 ans. Hein. Non, ça, c'est pas mon affaire. Hein. Alors, donc, vous montrez les poumons du hein, voilà, on lui dit, voilà, hein, moi, si tu veux te détruire, moi, c'est pas mon affaire, effectivement, mais voilà, je t'aurais prévenu.
Mathilde, c'est compliqué, hein. Votre dame âgée qui, donc, prend soin de Kevin, mais lui inflige tout un programme
De musique classique.
De rééducation musicale, littéraire et culturelle dans son ensemble. Mathilde s'occupe aussi de réapprendre à Kevin à bien manger, bien se nourrir. Fait partie du bien-être et de l'hygiène de vie.
Bien sûr, des choses. Et puis elle lui fait faire du sport à un moment donné aussi pour qu'il puisse être bien dans son corps. Parce que c'est un drogué, il a besoin de ça aussi. Hein.
Tu seras comme l'oiseau dont je serai le nid, c'est un huis clos. Oui. À quand une mise en scène théâtrale de ce roman, très belle pièce de théâtre.
Oui, c'est vrai.
Vous y avez pensé ?
Non, j'avais pas pensé, mais c'est vrai. Hein, il faudrait qu'on trouve. Ouais, j'ai quelques comédiens et comédiennes dans mes amis, c'est peut-être possible.
Je pense à Bernard Châtelet, par exemple.
Bernard Châtelet, Agnès Vertet, oui. Ouais, ça donne une idée.
L'idée est lancée. N'oubliez pas, dans les 10 dernières minutes de notre émission Wagon Livre, le coup de cœur de notre libraire partenaire, Evelyne Levallois, qui dirige la librairie L'Autre Monde, au 42 Grande Rue à Avallon. Nouvelle intermède musicale, c'est un choix de Marie-Thérèse Mutin, notre invitée. Voici un chanteur suisse qui est plutôt discret. En ce moment, rappelez-vous, il chantait combien de temps, C'était en 1988, Marie-Thérèse, vous vous rendez compte? Ou alors, je n'ai pas d'amis comme toi. Alors, je suis sûr que les auditrices et auditeurs ont deviné de qui il s'agit, d'autant plus qu'on va redécouvrir un chanteur dont les paroles de la chanson ont été composées par l'écrivain Philippe Djian. Et c'est une chanson de 89 et Marie-Thérèse avait envie que nous écoutions, et je m'en réjouis, Déjeuner en paix.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Tout va si mal, est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Tel soudain, me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. On déjeuner.
Stéphane Escher, Déjeuner en paix, revenons au roman de notre invitée, puisqu'elle est l'auteur d'un roman qui met face à face une femme âgée et un adolescent dont l'éducation est à repenser de A à Z, il faut le dire. Le roman a pour titre « Tu seras comme l'oiseau dont je serai le nid » et on peut se le procurer en librairie ou en le commandant sur le blog des éditions Mutine. Hein, Mutine sans S, sans M-U-T-I-N-E. Voilà, pourquoi Déjeuner en paix? Je reviens au titre de cette chanson
oui,
de Stéphane Escher.
Déjeuner en paix, mais c'est encore mon petit neveu Guillaume, là... Dont je dis qu'il m'a beaucoup appris, et c'est vrai, il avait 4 ans, ou 4 ou 5 ans à l'époque, et il était chez moi, et je lui sers son petit déjeuner, et puis il me sort, je voudrais bien déjeuner en paix, et moi je me demande pourquoi il me dit ça, quoi. Et ses parents me disent, mais c'est une chanson Stéphane Escher, que je ne connaissais pas, donc je la connais depuis.
Marie-Thérèse Mutin, avant justement d'écouter Stéphane Escher, je parlais de cette... éventualité de mise en scène théâtrale du roman dont il est question ce soir. Eh bien, nous allons l'un et l'autre prendre les rôles. Vous serez Mathilde, je vais être Kevin, et nous allons proposer donc un extrait du dialogue qui se trouve dans votre roman à nos auditrices et auditeurs. Votre Baudelaire, que vous citez tout le temps, c'était un sacré numéro. Il buvait de l'absinthe, il se droguait, il couchait avec des tas de nanas, et Verlaine, hein? Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. C'est d'où qu'il écrit ça? De la prison où il est enfermé parce qu'il a tiré sur son pote Rimbaud, aussi drogué que lui, hein? Qu'est-ce que vous dites de ça?
Qu'est-ce que tu veux prouver en disant cela?
Ben, que vous me traitez comme un monstre, alors que vous admirez des plus drogués que moi. Ça vous la coupe, hein?
C'est vrai, je réfléchis, je m'interroge. Est-ce que c'est l'alcool, la drogue qui leur donne du génie? Ou est-ce qu'ils ont dit génie malgré la drogue? Qu'en penses-tu?
Ils n'auraient pas écrit comme ça s'ils n'avaient pas été shootés.
Tu as raison. Ils écrivent superbement leur mal-être. Sans drogue, sans cette vie dissolue, ils n'auraient pas écrit les mêmes choses. Mais moi, je crois qu'ils auraient écrit, de toute façon. Je comprends bien ton intérêt pour ces poètes maudits. Tu cherches une justification à tes actes dans des exemples célèbres. Mais dis-moi, toi, lorsque tu t'es drogué, tu as écrit? Tu as peint? Tu es devenu musicien? Est-ce que Michael et Alexandra sont géniaux?
Oh, vous détournez toujours tout.
Non, je n'affirme rien, je te pose des questions.
C'est pas des vraies questions, vous connaissez les réponses.
Rien ne t'oblige à accepter mes réponses. Nous n'avons pas la même perception des choses, c'est normal. Dans un tas de pierres, moi je vois les cailloux, toi tu extrais les diamants, d'accord? Mais je crois qu'on peut faire le même constat. Tes diamants, la drogue ne les rend pas heureux.
Je ne suis pas d'accord, non. Ce n'est pas la drogue qui les rend malheureux. Ils prennent de la drogue parce qu'ils sont malheureux.
Oui. Peut-être est-ce que la vie qu'ils mènent qui les rend malheureux. Mais alors, pourquoi l'ont-ils choisi?
Oh, parce que vous croyez qu'on choisit sa vie, vous?
En partie, oui. Tu cites le début du poème de Verlaine, mais tu connais la fin? Qu'as-tu fait, oh, toi que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait, toi, que voilà, de ta jeunesse? Tu vois, il regrette d'avoir fait les mauvais choix, d'avoir gâché sa jeunesse.
Évidemment, il est en prison, il n'a rien d'autre à foutre que de chialer. Mais dès qu'il est sorti, il recommence.
Eh oui, c'est vrai. Il se complaît dans son malheur. Peut-être qu'il ne rencontre pas les bonnes personnes. Peut-être qu'il ne se résigne pas à choisir la bonne route.
Ou peut-être qu'il se dit que s'il mène une vie pépère, il ne pourra plus écrire.
En effet, c'est sûrement cela. Il a peur de perdre sa créativité. Il finira à 50 ans alcoolique à moitié clochard. En revanche, il aura laissé une grande œuvre poétique.
Marie-Thérèse Mutin, merci. On a essayé de jouer cette scène du roman, cet affrontement entre Mathilde et Kevin. Marie-Thérèse Mutin, vous ne vous êtes jamais droguée?
Ah non, jamais, non. Bon, j'ai même pas fait une tentative pour voir comment ça se passe, non. J'ai trop peur, hein. J'ai trop peur après...
D'être accro?
Oui. C'est au café que je suis accro.
Vous parlez de la vraie vie, ce qui est un thème aussi très rimbaldien, oui, la vraie vie. Oui. Qu'est-ce que la vraie vie pour vous? Maintenant, quand vous regardez un peu derrière vous, vous n'avez pas gaspillé votre jeunesse, vous n'avez pas perdu votre temps, vous avez été une femme d'action, vous êtes battue pour des idéaux, peut-être aussi pour les plus faibles parfois. Qu'est-ce que la vraie vie? Question difficile, je vous l'accorde.
Oui, mais c'est ça la vraie vie. Hein. La vraie vie, c'est de vivre la vie qu'on a choisie. sans concession. C'est ce que j'ai essayé de faire, notamment en politique, ce qui m'a valu le fait d'être exclue du Parti Socialiste, parce que j'étais sans concession sur mes idées. Mais je ne le regrette pas. J'ai eu une vie qui me plaît bien, finalement. Et puis, ben, maintenant, c'est un peu ce que Mathilde dit à Kevin. Elle lui explique les petits bonheurs. Elle lui montre un coucher de soleil. Elle lui montre les oiseaux en train de picorer. Et ça, c'est... Pour moi, c'est ça. La vraie vie, c'est ça. C'est regarder, et puis regarder les autres. Puis aider ceux qui sont dans la difficulté, si on le peut.
Il est aussi question un peu de politique, un tout petit peu de roman, puisqu'en fait, Kevin et Mathilde ont un échange sur la réplique malheureuse de notre ancien président Nicolas Sarkozy au Salon de l'Agriculture, avec ce désormais célèbre « Casse-toi, pauvre con ». Vous vous souvenez, vous, comment aviez-vous réagi aux propos du chef de l'État, aux propos malheureux?
J'avais été assez scandalisée qu'un président ne se contrôle pas à ce point-là, quoi. C'est vrai que maintenant les politiques ils sont soumis à être irréprochables à tous les instants puisqu'ils sont filmés sans arrêt. Mais quand même, c'est une façon. Il a voulu faire peuple. Ben oui, mais le peuple c'est pas ça. Le peuple il ne demande pas que le président se conduise comme lui. Hein. Puis encore en même temps, oui.
Qu'est-ce que ça veut dire faire peuple?
Eh bien, justement, lui, il a cru qu'il allait être populaire à employer les expressions populaires, quoi. Eh bien, je pense qu'il a tout faux.
Ce qui est amusant, c'est que Kevin, lui, explique à Mathilde qu'il s'est bien amusé avec ses camarades de classe dire, de toute façon, le président s'exprime mal, donc nous pouvons, nous aussi, à l'égard des adultes, la communauté éducative, nous pouvons aussi nous permettre des écarts langagiers.
Mais de dire qu'à soi pauvre con, et les professeurs ne peuvent pas les punir, parce que bon, c'est vrai.
Mais n'y a-t-il pas aujourd'hui, Marie-Thérèse Mutin, un manque d'exemplarité de nos hommes politiques?
Bien sûr, les hommes politiques ont voulu... ils ont abaissé la fonction, qu'on le veuille ou non. Quand y a les ministres de la Troisième République, vous n'auriez pas eu idée d'aller leur taper dans le dos ou leur faire la bise. Ils avaient une stature, ils représentaient quelque chose.
Mais François Mitterrand a-t-il été exemplaire?
Ah, exemplaire, à quel niveau?
Morale.
Vous savez, la morale et la politique, ça ne fait jamais bon ménage. Hein, mais exemplaire pour la fonction, pour la dignité de la fonction, je pense que oui. Pour la morale, ça c'est autre chose, mais ça, c'est sa vie privée à la limite. Hein. Moi, je juge Mitterrand aux actions qu'il a menées au gouvernement, pas sur sa vie privée. Hein. Je trouve qu'on en fait trop sur la vie privée, mais enfin, les hommes politiques se sont bien ingéniés aussi à cette pipelisation de la vie politique qui me semble extrêmement dommageable, parce qu'elle abaisse le débat.
Oui, puis elle est au détriment des idées et du débat.
Bien sûr, maintenant on ne parle plus que de Valérie qui va à la lanterne, le chômage, le pouvoir d'achat, plus personne n'en parle, quoi. Les gens devraient être un petit peu sensibles à ça, mais les journalistes qui ne sont pas Yannick Petit en profitent pour vendre malheureusement du papier.
Marie-Thérèse Mutin, en politique à l'heure actuelle en France, qui trouve grâce à vos yeux?
Personne.
Même pas Jean-Luc Mélenchon? Un petit peu quand même.
Non, je trouve qu'il a gâché, la campagne électorale présidentielle qu'il a faite, qui était excellente et tout. Et après, bon, il a été d'une agressivité déconcertante même contre Marine Le Pen. On ne va pas combattre le Front National en s'opposant. On ne va pas combattre les humoristes antisémites en les interdisant. Il devrait y avoir une pensée qui puisse permettre, une idéologie qui puisse permettre de montrer que les propos de Dieudonné sont déplacés, qu'il ne faut pas les écouter. On fait l'inverse. On envoie les gens à son spectacle. Je trouve que c'est vraiment... Il n'y en a aucun qui trouve grâce à mes yeux. Non, je ne vois pas le personnage personnel politique. Ou alors c'est quelqu'un qui va nous arriver en train de bûcher sur les idées, et comme ça, On peut rêver. Mais même mon âge, on peut rêver.
Que vous inspire ces propos désormais fameux de Séguéla? Si à 50 ans, on n'a pas une Rolex, on a raté sa vie. D'ailleurs, il en est question dans votre roman.
Oui.
Que vous inspire cette formule? Est-elle malheureuse, ridicule, grotesque, insultante?
Insultante et grotesque, oui. D'ailleurs, il s'est excusé après. Mais enfin, ça dénote bien sa pensée, quoi. L'argent roi, le fric partout, voilà. Quoi, c'est
pas,
ça la réussite.
Vous n'avez pas de Rolex au poignet, Marie?
Non, j'ai même pas de...
Vous avez raté votre vie? Non.
J'ai pas l'impression, non. J'ai l'impression de l'avoir mieux réussi que Séguéla, d'ailleurs. Bon, enfin, bref. Voilà, quoi.
Dernière escale musicale, Marie-Thérèse, mm-hmm. Vous êtes d'accord? C'est vous qui avez choisi. Alors, vous avez choisi un beau gars, un chanteur canadien. Il est devenu célèbre en France en interprétant le personnage de Quasimodo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, de Richard Cocciante et Luc Plamondon. C'était en 98, et bien on écoute Belle et c'est Garou. On se retrouve dans quelques minutes avec Marie-Thérèse Mille.
Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour... Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler, alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché. Laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Belle, malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent, demoiselle serait-elle encore plus saine quand ses mouvements me font voir monts et merveilles sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel? Cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda. J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier notre
belle, c'était Garou, un choix de notre invitée Marie-Thérèse Mutin à bord ce soir du 149e numéro de Wagonlit. Je voudrais d'ailleurs aussi encourager nos auditeurs à se rendre sur le site internet du Club des écrivains de Bourgogne, dont vous êtes membre, Marie-Thérèse Mutin. Et dans la rubrique bio et portrait, il y a un excellent portrait de vous, brossé par le journaliste Bernard Lecomte. Vous l'avez déjà lu au moins ?
Ah oui, oui, oui.
Ah bon, d'accord. Oui, oui. Marie-Thérèse Mutin, est-ce que Mathilde est proche du curé des Misérables qui, lui, veut sauver des âmes? Et la laïcarde, la femme athée que Mathilde est et que vous êtes également, vous avez voulu sauver des âmes comme Mathilde et comme le curé des Misérables de Victor Hugo?
Oui, j'aime beaucoup cette partie du livre de Victor Hugo. Ces chandeliers là, qui sont offerts, hein, ce curé qui a la... cet évêque qui a la bonne réponse, quoi. Tout n'est pas acheté dans la religion, hein. Le pape François, là, il est en train de nous surprendre un peu, hein, c'est bien. Oui, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est des rencontres avec certaines personnes, et si je peux leur venir en aide, si je peux leur donner un conseil. Enfin, c'est pas que je sois... Mais vous avez des gens qui sont incompris par leur entourage, par exemple, hein. Eh ben, ils trouvent toujours une oreille attentive chez moi, parce que je ne juge pas.
Marie-Thérèse Mutin, pleinement humaniste, indulgente et qui ne juge pas.
Non, je ne juge pas. J'essaye de comprendre, mais je ne porte pas de jugement parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un.
Et vous pouvez...
Parce qu'on ne sait pas comment on serait, si à la place de la personne, qu'est-ce qu'on ferait, hein. Ça, on ne peut pas le savoir.
Vous faites donc également vôtre les propos de Mathilde à la fin du roman, lorsque cette femme âgée qui a aidé son oisillon justement à déserter le nid pour prendre un nouvel envol et débuter une nouvelle vie, connaître une renaissance peut-être. Tout comme Mathilde, vous dites, on n'est pas seul si on a quelqu'un à aimer, à aider, à protéger. Message quasi évangélique.
Oui, ben, vous avez une petite auréole qui va pousser.
Je la vois tout d'un coup qui clignote, Marie-Thérèse.
Non, mais bon, ben, c'est vrai. Moi, c'est vrai que dans tous mes engagements, il y a eu cette idée d'aider les autres, quoi, hein, d'aider les enfants à apprendre à lire, d'aider les militants à comprendre ce qu'est un parti, ce qu'est une action politique, voilà, quoi. Et puis maintenant, bon, ben, j'aide au travers de... J'ai quelques auteurs à faire une petite surface, parce que malheureusement, on ne vend pas beaucoup. Mais en plus, l'association des éditions Mutines, c'est une véritable association, quoi. Et la plupart du temps, les auteurs que je publie deviennent mes amis. Parce que je les écoute. Parce qu'ils m'écoutent. Parce qu'on se sent bien ensemble, quoi.
Merci, Marie-Thérèse. Je rappelle le titre du roman dont nous avons essayé de bien parler ce soir à nos auditrices et auditeurs. « Tu seras comme l'oiseau dont je serai le nid ». À partir d'un moteur de recherche, hein, édition Mutine sans S. Voilà. Et là, on peut trouver tout le catalogue des éditions et on peut également commander votre roman et les livres des auteurs que vous chérissez, que vous conseillez et que vous éditez aux éditions Mutine. Merci Marie-Thérèse de nous avoir accueillis chez vous pour ce 149e numéro de Wagon Livre. Et comme chaque mercredi, le moment est venu de retrouver le coup de cœur qui nous est proposé par les libraires de l'autre monde. Et ce soir, c'est Lorraine qui est devant notre micro. Bonsoir Lorraine.
Bonsoir.
Alors un coup de cœur jeunesse.
C'est ça, un album jeunesse. C'est un album des éditions Didier Jeunesse. Le titre, c'est « La grenouille à grande bouche ». Et un album d'Élodie Nouan et de Francine Vidal. Ça raconte l'histoire donc, d'une grenouille, comme dit le titre, qui a une grande bouche et qui rencontre beaucoup d'animaux qui leur demandent ce qu'ils mangent. Donc à chaque fois, c'est des asticots, c'est des feuilles vertes. Et à la fin, donc, elle rencontre un animal assez spécial, donc le crocodile, qui lui annonce qu'il mange donc les grenouilles à grande bouche. Donc là, elle se cache beaucoup, elle rétrécit sa bouche et dit qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup par ici.
Lorraine a une très jolie petite bouche, hein. C'est pas une Lorraine à grande bouche, c'est une Lorraine à petite bouche pour un charmant coup de cœur. On en rappelle le titre et l'auteur.
La grenouille à grande bouche de Élodie Nouan et Francine Vidal aux éditions Didier Jeunesse.
Merci Lorraine. Alors on reste encore à l'autre monde parce que à l'autre monde, le mercredi 19 février, dans l'espace jeunesse de votre librairie, de 17h à 19h, vous aurez une invitée en la personne d'Anne-Marie Grosser. Alors Anne-Marie Grosser est une ancienne enseignante qui a collecté un très grand nombre de jeux chantés, de chansons, et elle viendra à la librairie. Donc il est important que vous sachiez qu'il faut se préinscrire, et on se préinscrit en téléphonant au 03 86 34 10 50 50, ou alors en envoyant un petit courriel à l'adresse électronique suivante
librairie.l'autremonde@orange.fr.
On vous souhaite une bonne fin de soirée. On vous donne rendez-vous mercredi prochain, toujours à partir de 21h sur Radion 90.5 ou sur le www.radion.fr. Bonne soirée, merci, au revoir. Au revoir Lorraine.
Bonne soirée, au revoir.